Il est 10h30 sur MDM, 10h30, l'heure d'Anthony, vous dites-vous? Eh bien non. Non, aujourd'hui je vous propose que l'on casse un petit peu cette routine et qu'on attaque ce Margot matin avec Nora Boisouni, notre chère journaliste et essayiste qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine thématique autour du festival écoféministe EBE. Et oui, encore lui, ça aurait dû commencer aujourd'hui. J'ai un petit pincement au cœur en prononçant ces mots. Alors Nora, ben, comme la plupart des autres intervenantes que j'ai interviewées, elle m'a expliqué pourquoi elle avait envie de venir participer à ce festival EBE. On l'écoute tout de suite.
Bah parce que c'est toujours ultra intéressant de rencontrer d'autres femmes, de confronter des expériences, de discuter dans un, à des occasions de ce genre-là où on a le temps de parler, d'échanger des expériences et où il y a une certaine bienveillance qui règne. Des événements qui sont faits pour ça, quoi, tu vois, et t'es pas juste à une conférence sur un thème alors qu'il y en a 120 autour qui n'ont rien à voir avec ce dont tu parles. Et puis ça fait du bien de pas être à Paris, quoi. Dans le sens, pas avoir toujours les mêmes personnes, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je suis invitée à des conférences ou à des dédicaces. J'en ai fait énormément quand une bouquin est sortie. C'est d'être partout sauf à Paris et de rencontrer plein de gens qui ne sont pas du tout de mon milieu aujourd'hui, mon cercle d'amis, donc tu vois, un peu des bulles finalement, hein, parce qu'on passe le tien. Et donc c'était intéressant avec ces thèmes-là surtout. Et quand tu me disais que non seulement il y a ces conférences-là, ces débats-là, mais en plus concrètement montrer des artisanes du coin, tu vois, des restauratrices du coin, donc donner aussi une visibilité. C'est une sorte de bloc party, quoi, tu vois. Donner une visibilité à des femmes qui font et de montrer ce qu'on peut faire aussi avec ses mains, que ce soit voilà, des choses comme on parlait tout à l'heure, faire ça, tu vois, concrètement, tu sais ce que tu peux faire avec tes mains, fabriquer, tu vois, des ateliers de DIY aussi, parce que ça fait du bien d'être entre meufs et fabriquer des choses et de parler. En fait, on sait très bien que c'est ce que les femmes font aussi. Quand on prépare à bouffer entre nous, on parle. Quand on coupe des trucs, on discute, c'est aussi un moyen d'échanger dans un, je cherche les mots depuis tout à l'heure, pas un endroit, mais tu vois, dans un lieu qui n'est pas trop intimidant. Tu vois, pour des femmes qui, par exemple, je pense à des femmes au foyer, par exemple. Des femmes au foyer, qu'elles les choisissent ou pas, c'est un métier. Pas rémunéré, mais c'est un métier. À pouvoir rencontrer des femmes dans un festival comme ça, c'est moins impressionnant parce que on n'est pas dans une espèce de grande salle hyper froide où il y a plein de mecs qui donnent la parole à des femmes. Tu vois, là, c'est des femmes qui prennent la parole et qui la donnent à d'autres femmes. Et puis, avoir les ateliers, ça permet d'avoir plein de gens différents qui viennent. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qu'il faut. Tu vois, toutes les luttes ne font qu'une. Les féministes ne concernent les femmes, toutes les femmes, n'étaient pas en train de proposer une entrée à 55 euros avec un goodie bag avec, tu vois, 5 euros de réduction sur une manucure à 45, quoi. C'est là pour faire et pour discuter et pour échanger, et c'est moins impressionnant aussi d'être dans des endroits comme ça, dans des situations pareilles. C'est ça que j'aime. J'aime échanger avec plein de gens dans plein de contextes différents, mais je pense que ça, c'est très important.
Et devinez quoi, nous aussi, on trouve ça très important et je pense que le propos de Nora Boisouni vient exactement de résumer toutes les envies qui s'étaient agglomérées dans cette idée de festival, donc c'est très chouette. On va terminer notre entretien avec Nora par la question classique, la question autour de ce fameux jour d'après. Qu'est-ce que c'est pour elle, le jour d'après alors?
Ah, qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que j'ai envie que ce soit?
Les deux.
Bah, moi, j'entends des promesses en l'air, comme d'habitude. Hein. Le monde d'après, tu parles. On ouvre les écoles pour permettre aux parents d'aller alimenter la machine capitaliste. Point. La preuve, il y a plein d'écoles qui ferment là, depuis 15 jours parce qu'il y a des nouveaux cas et des nouvelles infections. On renfloue les caisses de Renault et d'Air France. Et puis, qui derrière, licencie des gens. Le monde d'après, c'est le monde d'avant. Hein. Si tu veux qu'un type comme Macron fasse le monde d'après, il sait même pas ce que c'est le monde d'après. Il peut même pas l'imaginer le monde d'après, ce mec. Il a aucun. je pense qu'il n'a aucunement les capacités pour à la fois imaginer un vrai monde d'après, ni aucune envie de le faire advenir. Ça n'est pas dans son propre intérêt. Et il agit dans son propre intérêt. Et son propre intérêt, c'est de faire plaisir aux grands patrons et aux banques et au capitalisme. Tu peux pas abroger l'ISF et avoir des ministres qui disent que c'est démagogique de parler de rétablir l'ISF et parler d'un monde d'après, en fait. C'est à la fois nous prendre pour des lapins de 6 semaines et à la fois c'est même se moquer, ils se moquent, franchement c'est une gueule, enfin qui croit qu'en Macron quoi, président des riches depuis le début. Non, je ne crois pas une seule seconde. Après, moi, je suis comme toi, je suis de plus en plus pessimiste parce que c'est pire en pire, en fait, parce qu'il n'y a aucun indicateur qui nous montre qu'on est en train d'emprunter la bonne voie. Et surtout, moi, je ne vois aucune bonne volonté. C'est ça, pour moi, l'important, c'est de... Évidemment, tout ne peut pas advenir là comme ça, en un claquement de doigts, on ne va pas changer de modèle comme ça du jour au lendemain. Mais il n'y a aucun indicateur de bonne volonté, il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Et après, on se fout de la gueule des collapsologues et compagnie, tu vois, mais tu as envie de leur dire, bah vas-y, mais montre-moi en fait qu'on emprunte un chemin qui est moins désastreux que ce vers quoi on s'achemine. C'est pas des prophètes de l'apocalypse, comme on peut le lire dans souvent la presse de droite, hein, parlons de caricaturer, mais c'est quand même le Figaro et l'Express et compagnie qui adorent nous caricaturer les propos des collapsos, et etc. Quant à Greta Thunberg, qui est ouf, je veux dire, la meuf, elle est ouf, elle est dingue, c'est génial, enfin, c'est. Oh, à son âge, faire ce qu'elle fait, s'exposer comme ça, aller parler à des politiques et s'énerver au point de se mettre à pleurer. Et moi, ça me parle parce que quand je suis énervée, je pleure. Et on le prend comme un aveu de faiblesse. Toi aussi, on le prend comme un aveu de faiblesse. Quand un homme pleure, mais quand une femme pleure, c'est pire parce qu'on est des grosses hystériques, évidemment, on est hyper sensible. Hein. Mais moi, quand je suis énervée, je chiale. Donc les gens en face se disent, ah bah voilà, elle chiale, c'est bon, elle a pas les épaules, machin, elle s'énerve et tout. Non, non, c'est que la gamine, elle est là, elle leur dit, vous nous détruisez. Genre, vous êtes responsable de la destruction de plusieurs générations et d'une planète. Et que t'as les éditorialistes de droite, là, et les réacs en tout genre, et les misos en tout genre, sur des caricatures immondes sur une gamine de son âge, là, qui se fout de la gueule de sa maladie, tu vois, et qui vont dire, oh là là, les prophétesses de l'effondrement, là, là, là. T'es là, mais tu fais quoi, toi, en fait? Toi, tu fais quoi de ton côté, là? T'es invité sur BFM à parler du halal le lundi, du voile le mercredi et je sais pas, du pétrole le vendredi. C'est dans la vie, tu sais quoi ton... Explique-moi ton métier, explique-moi ce que tu penses apporter à la société, toi, en fait. Et donc, moi, je vois aucune bonne volonté, que ça de la part des médias. Donc, ces médias-là, en particulier, que je pointe, notamment la télévision, qui préfère le sensationnalisme. J'ai interviewé une chercheuse spécialiste des antiféminismes et des masculinismes, Mélissa Blais, qui est à Montréal, pour un épisode de Programme B, du coup, que j'ai fait par rapport à Mrs. America, pour parler des antiféministes. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on invite beaucoup d'antiféministes à parler à la télé? Et pourquoi ces femmes-là, et c'est des femmes surtout qu'on invite, tu vois. Et elle me disait, mais en fait, c'est pour du spectacle. Et elle m'a dit une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a valu pareil de me faire insulter, voilà, où elle disait, alors, ça y est, j'ai perdu la phrase exacte, où elle disait qu'en gros, la liberté d'expression peut passer au détriment, en gros, des droits de chacun et de l'égalité, tu vois. Donc on m'a dit, oui, ça s'appelle de la censure, et c'est là, mais en fait, non, qui est vraiment censuré à la télé? Dans le sens, qui n'est pas invité à défendre son point de vue? Tu vois, c'est certainement pas les réacs qui sont censurés, au contraire. Zemmour à la télé, tout le temps, partout. Eugénie Bastier, partout. Tu vois, c'est justement, c'est pas les progressistes qui sont invités, c'est les réacs. Donc, faut pas se tromper là-dessus. Je vois aucune bonne volonté des médias, je vois aucune bonne volonté des politiques, comme on disait, pour faire respecter certaines lois votées, pour en proposer d'autres. On nous a fait miroiter des choses il y a des années avec la taxe carbone, là. Non mais attends, laisser des pays acheter des parts à des pays moins pollueurs pour polluer plus. Et tu vois, alors là, mais c'est, je pense que aucun et aucune scénariste de film ou écrivaine ne pouvait imaginer un scénario pareil, de dire, viens, je vais imaginer un truc, tu vas me dire, hein, c'est absurde, tu vas me dire, ah, écoute, Michel, tu déconnes, là, t'écris un truc comme ça, personne ne va y croire. Imagine, tu peux prendre de la pollution des autres et polluer toi. Non, non, personne ne va y croire, ton truc, il est absurde. Non, non, en fait, ils le font.
Plus dire, c'est là, gros, plus ça passe.
Conneries, quoi, tu vois. Comment ?
Plus c'est gros, plus ça passe.
Mais ouais, et tu vois, on rivalise d'imbécilité, quoi. Et là, on nous parle de travailler plus, pour compenser, on ne revalorise pas le... Putain, avant le confinement, qui était en grève ? Ah, un hôpital public, dis donc, c'est intéressant, ça, tu vois. Et aucune bonne volonté, on détruit le service public français, on définance des assos, encore une fois, on dépolitise toutes les questions. Macron, quand il y a un problème, il crée une ligne téléphonique, quoi. Donc, si tu veux qu'on tire de ce gars-là, tu manifestes, il fait rien. Comme j'écris dans mon truc médium, dans mon post médium, le mec, il doit donner sur cours parce qu'il n'entend pas la rue, il s'en fout complètement. Il en a rien à foutre. On a la preuve depuis le début du quinquennat qu'on a un président, désormais, qui n'en a rien à secouer de la rue et de l'opinion publique. Il se fout clairement d'être au plus bas dans les sondages. Il se fout que la France est en grève pendant des semaines et des mois. Il n'a aucun intérêt à lâcher la politique telle qu'il l'amène aujourd'hui. Alors peut-être qu'avec la Covid, le coronavirus, le confinement, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'on va être encore plus énervé après. Est-ce que lui va céder sur des choses ? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il va décider de... Tu vois, les primes pour les caissières et les caissiers, là. Voilà, encore une grosse arnaque. Hein. En fait, 1000 euros... Ah bah non, en fait, ce qu'on vous dit pas, c'est que c'est au bon vouloir des employeurs. Et c'est pas 1000 euros par personne, hein. Ça peut être, tu vois, distribué 10 euros par-ci, par-là. Encore une belle enflure, quoi, tu vois. On s'est encore fait avoir. Lui, non. Et un autre, peut-être même pas, hein, tu vois. Je suis très, très pessimiste là-dessus. Moi, ce que j'aimerais voir advenir comme monde d'après, c'est un monde, bah déjà, prenons l'exemple du Québec, dont on parlait tout à l'heure sur l'égalité salariale. Ne prenons pas le temps de travail, prenons la valeur du travail qui est exercé. Faisons un système, comme ont fait les Québécois et les Québécoises, de noter la valeur du travail effectué par les gens. Donc, quand je dis effectué, c'est-à-dire que quelle profession mériterait une augmentation pour la valeur qu'il ou elle a dans la société.
Surtout que là, quand même, avec la période qu'on vient de traverser, on a quand même une notion, une vision très claire du travail et de l'importance de certains postes et de ce que ça requiert.
Bah non, la preuve que non. Regarde, Le Parisien qui fait sa une avec que des mecs. Sur Twitter, là, quand je vois des tweets passer de meufs qui tweetent, ou de médias qui tweetent des articles sur justement les métiers du care, et puis les caissières, les assistantes de vie, auxiliaires de vie, les nounous, les aides ménagères, les femmes de ménage et tout. Et t'as toujours un milliard de connards en commentaire pour te dire « Et les pompiers, et les policiers, et les militaires, et t'es là, mais... Et les médecins, et t'es là, mais waouh, quoi, mais waouh, mais genre, mais sors la tête de ton cul, en fait. » Et donc voilà, t'as toujours, et c'est comme partout, quand on parle des femmes, t'as toujours des mecs pour dire « Et les hommes aussi, ils souffrent. » Tu parles des viols sur les femmes, et les hommes aussi, ils sont violés, et tous les hommes sont pas des violeurs. Tu parles de pénibilité au travail et les hommes, ils se suicident plus que les femmes. Et tu leur réponds, mais pourquoi les hommes se suicident plus ? Est-ce que tu as réfléchi à la raison pour laquelle les hommes se suicident plus que les femmes ? La réponse peut te surprendre. La réponse, c'est le patriarcat. En fait, gars, juste, essaie, au lieu de balancer ça, tu vois, puis arrête de penser qu'à toi. On parle des femmes. Qu'est-ce que tu as pu faire qu'on parle à moins des femmes, quoi ? C'est juste tout ramener à ta petite personne. Donc, tu vois, oui, là, on est là, on applaudit à 20h hier, il y avait 3 personnes qui applaudissaient les soignantes dans mon immeuble, là, machin, alors que tous les soirs, c'était ouh, machin, et tout, là, plus personne qui applaudit personne. Mais c'est toujours comme ça, regarde, la consommation, elle repart de plus belle, les gens recommandent tout sur Amazon, tout le monde s'en fout. C'est bien beau, on a fait notre pain pendant le confinement, maintenant, on commande des jouets en plastique de merde sur Amazon, tu vois, parce que la société nous dit que si tu consommes pas, tu n'existes pas. Et quand on dit que c'est de ta faute, si l'économie est au plus bas, il faut consommer, la croissance, la croissance, la croissance, tu vois. Pendant ce temps, qui concentre les richesses dans le monde? Qui nique l'environnement avec des jets privés, des yachts et des voyages en avion tous les mois? C'est pas les pauvres, hein. Et c'est pas non plus les classes moyennes. Et tant qu'on change pas de paradigme économique, social, et juste qu'on change pas de lunettes, en fait, il nous faut des lunettes différentes, ben, il y aura pas de monde d'après. Moi, et vraiment, de façon tout à fait personnelle, je ne crois pas qu'il y aura un monde d'après. Pour moi, le monde d'après, c'est le reboot, tu vois. On reboot la Terre. Seulement en effaçant le système que tu crées un autre système. C'est comme un ordinateur, quoi, tu vois. Tu fais une remise à zéro, puis tu installes un nouveau... tu peux pas installer Linux sur un Mac en même temps et penser que tout est nickel et ça marche bien et utiliser le deux en même temps, tu vois. Il faut que tu choisisses à un moment donné, quoi. Et je suis pas sûre que tout le monde soit prêt à choisir, parce qu'on tu vois, c'est encore une question de dogme aussi, quoi. C'est dur, personne n'est parfait, moi je suis pas parfaite. Regarde, j'ai pris Airbnb cet été, alors je crache sur Airbnb, si tu veux que je... Je fais pas de leçon de morale, hein. Mais changeons de paradigme. C'est dur, mais c'est possible. Je pense que c'est possible, mais c'est pas des citoyens et citoyennes qui peuvent le faire.